C'est donc si passionnant, l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Les naufragés de la Méduse.
Commandant ! Commandant ! Monsieur, regardez. Plus de fond. C'est une catastrophe, monsieur. Nous touchons le fond.
des algues ! Une merveille de la nature !
Mais monsieur, vous ne comprenez pas ? Nous touchons le fond !
La plus seule merveille de la nature !
Nous sommes perdus, monsieur.
Toute comparaison entre les naufragés de 1816 et l'équipe gouvernementale qui tient si solidement la barre en France deux siècles plus tard serait évidemment saugrenue. C'est de la Méduse de 1816 que nous allons parler aujourd'hui. Le 2 juillet de cette année-là, elle s'échoue sur le banc d'Arguin. C'est au large de la Mauritanie, une zone de haut fond à laquelle le capitaine, monsieur de Chaumaret, aurait dû prendre garde. Jusqu'ici, pourtant, tout s'était bien passé. Les quelques 400 passagers avaient sacrifié au rite du passage du tropique du Cancer. Ils faisaient route vers le Sénégal avec le projet de réinstaller la présence française sur la côte et jusqu'aux îles du Cap-Vert. Et la Méduse, c'était une bien fière frégate et quasi neuve, armée de 44 canons. Avant monsieur de Chaumaret, elle avait été commandée par le capitaine Ponet. L'année d'avant, l'été 1815, elle se trouvait d'ailleurs à l'île d'Aix, que Napoléon vaincu allait quitter sur le Bellérophon. Ponet avait proposé à l'empereur « Sire, je jette la Méduse sur le Bellérophon, le blocus anglais s'en trouve tout désordonné, vous passez sur une autre frégate et vous gagnez l'Amérique. » Napoléon avait refusé. Le destin de la Méduse était sans doute d'être associé à une autre catastrophe exemplaire.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Jacques-Olivier Boudon, bonjour.
Bonjour.
Les naufragés, vous dites bien les naufragés, pas le naufrage de la Méduse, c'est votre dernier livre aux éditions Belin. Après la défaite de Napoléon, la réinstallation de la présence française sur la côte du Sénégal est possible.
Oui, elle avait été envisagée dès 1814, mais les 100 jours ont retardé la reprise du Sénégal. Et c'est donc en 1816, au début de 1816, que la France se décide d'envoyer une escadre pour reprendre ses colonies du Sénégal, c'est-à-dire essentiellement le comptoir de Saint-Louis et l'île de Gorée, plus les territoires qui sont autour, mais qui sont à ce moment-là complètement inoccupés. Les Anglais l'occupent depuis 1809 et donc ont promis de restituer ce territoire à la France.
Louis XVIII a même nommé un gouverneur, lequel va embarquer sur la Méduse, dont vous dites qu'elle fait partie d'une escadre de 4 bateaux.
C'est en quelque sorte le vaisseau amiral d'une escadre de quatre navires qui prend la mer le 17 juin en direction du Sénégal avec en effet le colonel Schmalz.
Schmalz,
d'origine allemande comme son nom l'indique, qui arrive au Sénégal avec sa femme et sa fille.
Enfin, qui compte arriver facilement au Sénégal. C'est un monsieur qui connaît bien l'économie esclavagiste, hein.
Oui, il a pas mal œuvré dans l'exploitation notamment des Indes néerlandaises et il a pratiqué bien sûr l'esclavage, comme c'était très courant à l'époque. Et donc il connaît bien les colonies et il connaît bien la pratique de l'esclavage.
Il faut des troupes coloniales. Et parmi les troupes coloniales, il y a pas mal de noirs.
Les troupes qui sont envoyées au Sénégal sont des troupes qui composent un bataillon dit du Sénégal, dont une grande partie vient des Antilles, en fait, dont les officiers qui ont servi aux Antilles. Et donc, on a recruté aux Antilles des Noirs et qui sont présents sur le navire, puis sur le radeau.
Mais il y a aussi les membres d'une société philanthropique qui, peut-être en dehors de l'économie esclavagiste, imagine créer une colonie agricole sur la presqu'île du Cap-Vert.
Ils sont une vingtaine, dont 8 ingénieurs ou équivalents, une douzaine d'ouvriers qui veulent coloniser la presqu'île du Cap-Vert, c'est-à-dire la région autour du village de Dakar. La ville n'est pas encore fondée à ce moment-là. Et il y a parmi eux Coréard, qui est l'un des principaux témoins qui ensuite a raconté l'aventure. Il y a aussi Richefort, cet ancien officier de marine qui sera l'âme damnée du commandant Chaumaret. Il y a aussi un charpentier, Touche la Villette, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, puisqu'il a beaucoup inspiré Géricault pour la construction du radeau et donc la fabrication de la toile.
Cela ne compte pas utiliser d'esclaves.
A priori non, mais ça n'est pas non plus impossible. Ce qui est interdit en 1816, c'est la traite, l'esclavage ne l'est pas, donc on n'a pas d'informations sur ce point.
L'équipage fait 169 personnes, avec aspirant, deux lieutenants, Espoo et Reynaud. Reynaud, dont on va entendre ici qu'il passe pour bonapartiste.
Qui est celui-là ?
C'est le second. Il s'appelle Reynaud, il était bonapartiste. Ah. Raison pour laquelle il serait déjà brouillé avec le capitaine Chaumaret. Ça promet.
Espérons qu'ils ne vont pas scraper le toupet pendant la traversée.
Messieurs les officiers, au grand complet, sont attendus dans la chambre du conseil. Faites passer.
Messieurs, il y a 25 ans que je n'ai navigué. Je ne rougis pas de vous avouer que je suis rouillé dans le métier. En conséquence, je vous prie d'avoir de l'indulgence pour moi et de me considérer comme votre père. Pour moi, je vous promets de vous considérer comme mes enfants. Il y a parmi vous des héros que je suis fier d'avoir sous mes ordres. Certains ont connu Trafalgar, les prisons anglaises sous l'Empire. Vous êtes tous jeunes, et c'est justement de 109 qu'a besoin le trône de Sa Majesté pour s'affermir définitivement et de reprendre les possessions de notre colonie du Sénégal qui est restée trop longtemps dans les mains des Anglais.
Donc le capitaine de Chaumaret. Alors le capitaine de Chaumaret, il avoue à son équipage que ça fait un moment qu'il est le cutané derrière un bureau à terre. Enfin, il a émigré aussi après avoir servi une douzaine d'années dans la marine sous l'Ancien Régime.
Il fait partie des 80% d'officiers de la marine d'Ancien Régime qui ont émigré. Il a participé à l'expédition de Quiberon, ce qui est pour lui la raison pour laquelle il va être récupéré dans la marine en 1814. Et il est rentré en France en 1802. Il s'est rallié à Bonaparte. C'est un petit notable du Limousin qui, lorsque Louis XVIII revient au pouvoir, se souvient qu'il a été marin et demande sa réintégration. Mais évidemment, comme il était lieutenant de vaisseau avant la Révolution, il veut un grade supérieur et on le nomme capitaine de frégate. Et encore, trouve-t-il que ce n'est pas suffisant. Il aurait bien aimé être capitaine de vaisseau.
Alors on part d'Aix, de l'île d'Aix, au large de Rochefort. Et ça se passe bien au début.
Oui, le temps est parfait. On a attendu que les vents se lèvent pour partir donc le 17 juin. Ça se passe tellement bien d'ailleurs que la Méduse va beaucoup plus vite que les autres navires et qu'elle en laisse deux en arrière, l'Argus et la Loire. Et que finalement, très vite, la route n'est faite qu'avec l'Écho. Les deux navires vont voguer de concert jusqu'au 1er juillet. Donc tout se passe très bien. On franchit l'île de Madère. On s'arrête quelques temps aux Canaries pour ravitailler. On va chercher des fruits frais, du vin, de l'eau,
etc. Le vin ne manque pas à bord. Et ça sera utile, le vin, d'une certaine manière, sur le radeau, dans peu de jours. Une erreur de localisation du Cap Blanc, donc sur la côte africaine de l'Ouest. Une négligence, parce qu'on n'a pas fait suffisamment de sondages pour repérer les hauts fonds. Et c'est l'échouage, le 2 juillet. Alors, on essaye de remettre droit le bateau, mais le mauvais temps va plus vite que les opérations de remise à flot. Et on décide, on prononce insolent, hein, je ne sais pas comment la décision a été prise, de répartir tout ce beau monde, soit sur les canottes, pardonnez la prononciation bretonne, soit sur une chaloupe, soit sur un radeau, qu'on a eu le temps de construire, un très 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 grand radeau. Et voici comment s'organise la répartition. Le premier qu'on entend, c'est le gouverneur Schmalz, qui doit jouer un rôle, parce que c'est lui qui est le supérieur hiérarchique de tout ce beau monde, et puis deux autres témoins vont suivre.
Voici la liste de ceux qui seront sur le radeau, et ceux qui partiront dans les canaux de sauvetage. C'est une liste véritablement équitable. Bien entendu, j'ai tenu compte de tout, du rang, du dévouement, mais aussi des qualités individuelles, bien entendu. Quant à la disposition et à la répartition, c'est tout simple. Nos canots de sauvetage remorqueront le radeau.
Du radeau, nous entendons crier « Vive le roi !» Et ce cri est repris sur le radeau et dans les canots qui nous remorquent. « Vive le roi !» Nous sommes tous contents, la mer est très belle. Et nous savons que la terre n'est qu'à une dizaine de lieues.
L'enthousiasme de ces hommes qui avaient de l'eau jusqu'à mi-cuisse ou plus me surprit autant qu'il me toucha. Je pense que leur cri saluait le succès de l'opération de sauvetage, mais je crois que dans leur naïveté, les passagers du radeau s'étaient imaginé que la chaloupe était maintenant en mesure de prendre place dans le convoi, et qu'avec ce renfort, on ne tarderait pas à atteindre bientôt la côte.
Donc l'idée, c'est celle d'un convoi avec, j'imagine, un filin qui relie toutes ces embarcations. Les deux témoignages qu'on vient d'entendre, c'est celui de Picard, le fonctionnaire, et celui du capitaine Dupont, qui a eu la malice de mettre dans son shako, dans son couvre-chef, des provisions, et qui voit sur le radeau des gens qui hissent, pas le drapeau blanc, mais enfin un mouchoir blanc pour dire leur confiance dans le système royal tel qu'on va le voir se déployer dans cette affaire. Alors, les canots, la chaloupe d'abord.
Alors c'est une grande chaloupe en très mauvais état qui va accueillir près de 100 passagers. Pas immédiatement, mais au total, elle va récupérer tous les marins et passagers qui se trouvent sur la Méduse et qu'on avait en fait laissé, qui n'avaient pas pu prendre place sur le radeau ni dans les autres canaux.
Le vrai héros, là, c'est le lieutenant Espio.
Le lieutenant Espio, un ancien de Trafalgar, un ancien prisonnier de guerre, qui a pris sur lui d'aller rechercher les rescapés qui étaient sur le bateau et qui va les conduire, pour une grande partie, sur la côte très rapidement. Le lendemain, il est obligé de les évacuer sur la côte parce qu'il ne peut pas naviguer avec une centaine de passagers à bord de cette chaloupe.
Mais dans votre livre, je rappelle aux éditions Belin, Jacques-Olivier Boudon, vous racontez que les naufragés du désert, parce qu'on peut les nommer ainsi, ceux qui se retrouvent sur la côte, ils ont connu aussi beaucoup de difficultés et bien des dangers.
Oui, on en parle peu, mais pendant plusieurs jours, ils ont marché avec la soif, le soleil, il y a eu des pertes aussi parmi ces hommes, donc des conditions très difficiles, beaucoup moins bien sûr que sur le radeau, mais ils ont connu ces naufragés du désert, une arrivée à Dakar, enfin plus exactement à Saint-Louis, très périlleuse.
Mais alors, sur les deux canots, il y avait, j'imagine, le colonel Schmalz, qui s'était installé avec son fauteuil, et puis, sur l'autre, le capitaine de Chaumaret, dont on dit qu'il est peut-être parti un peu tôt.
Il est revenu vers la frégate, il a essayé, expliquera-t-il, de mettre un peu d'ordre. C'est un véritable chaos sur la frégate lorsqu'on donne l'ordre d'évacuation parce que les marins, les passagers se sont enivrés, ils ne veulent pas monter à bord du radeau, on est obligé de les menacer. Donc, dans un premier temps, il essaie de mettre un peu d'ordre à tout cela. Et puis, très rapidement, il reprend la route, part dans son canot et finalement abandonne la frégate avec encore près de 100 passagers que récupérera la chaloupe. Avec Espio, et donc il abandonne en fait le navire.
Mais on ne sait pas que 17 personnes sont quand même restées à bord de la Méduse. Alors, vous disiez que beaucoup étaient ivres, ils étaient peut-être trop ivres pour monter sur la chaloupe, mais c'était pas nécessairement le plus mauvais choix qu'ils ont fait.
C'est ce que diront les 3 survivants sur ces 17, les seuls à être restés jusqu'au bout sur la frégate. Ils ont encore des vivres, ils ont du vin, et donc pendant 2 mois, ils vont vivre de ces victuailles.
Mais vous racontez qu'ils se tiennent les 3 qui vont rester, qui vont survivre, chacun à distance de l'autre pour ne pas être tenté de se bagarrer.
Exactement, et ce sont 3 marins expérimentés qui ont plus de 50 ans, alors que les autres étaient des soldats du bataillon du Sénégal, qui eux vont tenter à nouveau de construire un radeau et dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.
Alors le grand radeau, on va maintenant suivre son périple. Je vous propose d'entendre un extrait de l'oratorio fameux de Hans Werner Henze, qui a été donné pour la première fois en 1968 dans une Allemagne qui était chauffée à blanc ou à rouge par les idéaux de 1968. Les premières représentations ont eu lieu sous un grand portrait de Che Guevara et un drapeau rouge. Alors ici, on est dans une interprétation plus calme, plus apaisée quelques années plus tard, sous la direction du compositeur avec l'Orchestre symphonique de Hambourg.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jacques-Olivier Boudon qui publie chez Belin Les naufragés de la Méduse. Si on fait le point au 8 juillet 1816, Jacques-Olivier Boudon, les passagers des deux canots sont arrivés à Saint-Louis, les naufragés du désert vont arriver, 17 membres de l'équipage sont restés à bord, 3 vont survivre, et le radeau. Alors, quelle taille il a, ce radeau?
Ce radeau mesure 140 mètres carrés et recueille environ 150 passagers. On ne sait pas exactement le nombre, disons 150 hommes et une femme. On est sûr qu'il y avait une femme
sur le radeau.
Une cantinière qui, dit-on, avait fait toutes les campagnes de la Révolution et de l'Empire. La plupart de ces passagers, ce sont en fait des soldats du bataillon du Sénégal. Il y a quelques membres de la société philanthropique et il y a quelques marins. Très peu de marins, mais quelques mousses en particulier, qui forment donc ce groupe de 150 passagers.
Il n'y a pas de provisions, puisqu'on avait dit qu'en l'espace de 48 heures, on rejoindrait la côte. Il n'y a pas d'instrument de navigation. Et souvenons-nous, au début, il était prévu un filin. Un filin pour constituer un convoi.
Tout à fait. Le convoi, d'ailleurs, avait été organisé. Simplement, à un moment donné, on a rompu la mare. Les ordres ont été donnés visiblement par le gouverneur du Sénégal, qui s'en est bien sûr défendu, mais plusieurs témoins l'attestent, y compris des officiers, qui ont raconté qu'il avait donné l'ordre de se séparer du radeau, craignant une insurrection, une émeute, une mutinerie. On est là aussi dans un conflit à caractère social entre les hommes du peuple, ces soldats qui sont sur le radeau, particulièrement éméchés. Hein, il faut se rappeler qu'ils ont beaucoup consommé d'alcool et de vin.
Oui, il y a du vin quand même encore à bord.
Et il y a encore du vin sur le radeau. C'est la seule chose que l'on trouve sur le radeau. Plusieurs barriques de vin, deux barriques d'eau, mais très rapidement, qui seront perdues. Donc c'est cette peur, nous diront les officiers supérieurs, cette peur de la mutinerie qui les a conduits à se séparer du radeau.
Mais attendez, vous utilisez dans les intertitres de votre livre le mot « guerre civile ».
La guerre civile, elle naît sur le radeau. Parce que sur le radeau, il y a des soldats, mais il y a aussi des officiers. Et très rapidement, les
officiers
sont au milieu, autour du mât, c'est-à-dire sur la partie qui est recouverte de planches, donc à peu près stable. Et tous les autres ont été laissés, notamment sur les bords du radeau. Il n'y a pas de garde-fous, c'est-à-dire qu'au moindre mouvement du radeau, qui s'enfonce de près d'un mètre dans l'eau, il faut imaginer qu'il n'y a pas de stabilisateur. Donc, avec ces 150 hommes, ils ont de l'eau jusqu'à mi-cuisse ou jusqu'à la taille. Évidemment, la seule façon d'alléger le radeau, c'est de faire en sorte que des hommes soient jetés à la mer.
Et donc la guerre civile. La cantinière est une des premières, d'ailleurs, à être jetée à la mer.
Elle est jetée à la mer, on la récupère et elle finira par l'être à nouveau plus tard et par mourir. Mais cette guerre civile, c'est cet affrontement, la nuit en particulier, entre le groupe des officiers, comme je l'appelle, et le reste des membres de l'équipage du radeau, qui vont s'entretuer.
Mais je croyais qu'il n'y avait pas d'armes à bord, qu'on avait laissé les armes sur l'épave de la Méduse, sauf pour les officiers.
Les officiers ont quelques armes à feu, mais les soldats ont quand même récupéré ou gardé des couteaux, on voit apparaître des sabres, et puis ils ont leurs mains. Ce sont souvent des gaillards qui vont utiliser leurs mains, et donc il y a une lutte très très âpre qui s'engage entre ces deux groupes.
Il faut dire que les couteaux, c'est utile pour découper la viande humaine.
Ceux qui eurent la force de s'abstenir de la viande sacrilège prirent une plus grande quantité de vin. Nous essayâmes aussi de manger des baudriers de sabre et des gibernes. Nous parvînmes à en avaler quelques petits morceaux. Quelques-uns mangèrent du linge, d'autres des cuirs de chapeaux sur lesquels il y avait un peu de graisse, ou plutôt de crasse.
Au septième jour sur le radeau, il ne reste plus que 27 survivants, dont la moitié agonise. Afin de se donner encore une chance de survie en conservant de précieuses rations de vin, les officiers se réunissent à propos des blessés.
Après un conseil présidé par le plus affreux désespoir, il fut décidé qu'on les jetterait à la mer. Ce moyen, quelque répugnant et quelque horrible qu'il nous parût à nous-mêmes, procurait aux survivants 6 jours de vin à 2 quarts par jour. Mais la décision prise, qui osera l'exécuter?
Ici, avec le feuilleton de Michel Agnette, un extrait aussi du documentaire d'Arte qui a été produit l'année dernière et réalisé par Hervé Jouan et Émilie Dumont. Tous ces documents sont issus des témoignages des survivants, dont Agnette dit qu'il faut toujours les remettre en perspective, les uns par rapport aux autres. Votre remise en perspective, ça c'est très intéressant, Jacques-Olivier Boudon, consiste à dire que ce radeau, c'est un condensé de l'époque révolutionnaire et de l'époque impériale, puisque la guerre civile, l'insurrection, on l'a connu, que le cannibalisme aussi, d'une certaine manière, on a connu, puisqu'on a parlé de la terreur ou de la guerre de Vendée comme des actes de cannibalisme.
Oui, alors c'est un concentré des violences qu'on a connues à l'époque de la Révolution et de l'Empire, violences sur le plan militaire, mais aussi violences entre les individus. Le cannibalisme, on le dénonce à l'époque de la Révolution, mais on sait qu'il est attesté pendant les campagnes napoléoniennes, par exemple pendant la campagne de Russie. Et pendant ces campagnes, on n'en parle pas. On tait le caractère affreux de ce qui s'est produit. Avec la Restauration, on ose dire... Et la particularité de l'affaire de la Méduse, c'est que au-delà de l'événement, on raconte l'événement. Et cela fascine l'opinion publique, qui est horrifiée, bien sûr, d'apprendre que des actes de cannibalisme ont été commis, mais qui, en même temps, relie cette histoire comme un condensé des guerres de la Révolution et de l'Empire.
Alors, on raconte. Là, on peut citer le nom de Coréard, on peut citer le nom de Savigny. Ce sont deux témoins sur lesquels vous insistez, comme Michel Agnette, beaucoup. Ils vont publier ces témoins dans les journaux de la Restauration, parce que la presse est quand même beaucoup plus libre que sous l'époque de l'Empire.
Oui, c'est Savigny, l'officier de santé qui était sur le radeau, qui rédige un rapport pour le ministre de la Marine, et ce rapport va fuiter. Il est livré à la presse et publié dans le journal des débats dès le mois de septembre 1816, le journal le plus lu de l'époque. Et ensuite, Coréard, revenant en France un peu plus tard, va s'associer à Savigny pour publier un livre qui, à nouveau, va faire scandale lorsqu'il paraît en novembre 1817, livre qui d'ailleurs inspire ensuite Géricault. Et c'est ce livre qui va fédérer les libéraux, qui dénonce à travers l'aventure de la Méduse l'incompétence du capitaine, mais au-delà, l'incompétence du gouvernement et du régime de la Restauration.
Parce que c'est à un moment où s'affrontent les libéraux et les ultras pour la conduite du pays que le scandale de la Méduse arrive.
C'est précisément dans ce contexte de conflit entre les libéraux et les ultras que le scandale est révélé. Et les libéraux s'en emparent pour dénoncer les ultras, et en particulier parce que le ministre de la Marine, Dubouchage, fait partie des ultras, et que Duroy de Chaumaret est aussi un homme de ce parti.
Alors, il ne faut pas exagérer les choses. Le journal de débat, c'est 10 ou 20 000 exemplaires. On le relit après dans les cabinets de lecture. Et les élections, ça se joue au suffrage censitaire. Il y a très peu de lecteurs, ceux qui payent un sens élevé. Donc, il y a deux positions. Monsieur de Chaumaret est un incapable. Ça témoigne du fait que la Restauration utilise de mauvais serviteurs pour récompenser ses amis émigrés. Et puis, l'autre interprétation qui consiste à dire le cannibalisme, l'insurrection, c'est une affaire de 20 ans et de 25 ans qu'on a connue pendant la Révolution. Chaumaret va être l'objet d'un procès plus rapide que celui du capitaine du Costa Concordia. Ça, c'est réglé en très peu de mois après qu'il est rentré en France.
Le gouvernement doit donner des gages, donc il fait juger Chaumaret en février-mars 1817, dès qu'il rentre en France. Et il encourait la peine de mort, et finalement il n'est condamné qu'à 3 ans de prison.
Au fort de Ham, où il bénéficie de victuailles, qui lui sont servies dans sa chambre.
Il a un sort assez souple, il peut sortir, il se fait livrer sa nourriture de l'auberge du coin, un peu comme Louis-Napoléon Bonaparte, quelques années plus tard, qui
il
occupera...
fermé au fort de Ham, après une tentative de coup d'État. Au salon de 1819 est présenté une immense toile épique de dimension extraordinaire, c'est le radeau de la Méduse de Géricault. Vous parliez de la Villette, Jacques-Olivier Boudon, il y a quelques instants. C'était un charpentier qui a fait pour Géricault une maquette du radeau, et dans un silence religieux, Géricault interrogeait les témoins dans son atelier.
L'œuvre de la Villette, identique. Enfin, je crois. Il le dit, en tout cas.
Identique, vous croyez ?
Identique, oui.
Horriblement identique.
Maintenant, les naufragés, dans le moment même où vous apercevez de loin un navire. Le sauveur. Ces figurines me servent uniquement pour la disposition.
La Villette. Il était là, debout.
Nous sommes bien d'accord, le moment même.
Moi, j'étais là, et ici, c'était l'heureux. Et à côté de lui, là, Thomas, Thomas était toujours à côté de l'heureux. Et vous, Savigny, vous étiez ici. Voyez-vous, Monsieur Géricault, Savigny était toujours là, debout.
Oui. Le radeau de la Méduse a aussi inspiré un film, le film de Hira Jazimi, dont voici un écho. Nous étions dans l'atelier de Géricault.
Géricault a rencontré les survivants, Coréard et Savigny, après avoir lu leur livre. Il a rencontré aussi ce fameux Touche-la-Villette. Il ne se lasse pas de les entendre raconter le récit du naufrage et il va les situer sur le radeau. Coréard et Savigny apparaissent sur la toile de Géricault, qui est une toile qui va faire scandale lorsqu'elle est montrée au salon de 1819. D'ailleurs, les autorités ont refusé qu'elle porte le nom de radeau de la Méduse. On se contentera de scène de naufrage parce que il ne faut pas rappeler cet événement qui est un très mauvais souvenir pour la Restauration.
Mais les trois noirs qui sont là, où les a-t-il trouvés, Géricault? Les trois noirs qui sont sur sa toile?
Sur le radeau, parmi les 15 survivants que le brick Largus retrouve le 17 juillet, il y avait un noir. Mais en fait, ce qu'a voulu dire Géricault, c'est que auparavant, il y avait eu beaucoup plus de noirs sur le radeau. Et évidemment, il y a un message politique contre la traite que le gouverneur du Sénégal, Schmalz, a laissé se pratiquer depuis qu'il a pris ses fonctions. Et il a été dénoncé comme tel. Et c'est d'ailleurs un des arguments que les libéraux, mais aussi Coréard et Savigny, qui ne cessent de reprendre la plume, de rééditer leur ouvrage, vont utiliser pour dire, vous voyez, ce sont des incompétents et ils continuent à mal se comporter. Donc il y a un message contre la traite et plus généralement contre l'esclavage. Géricault s'est indéniablement rallié au camp des anciens esclavagistes. Alors qu'il faut rappeler qu'au début de la période, il était un royaliste qui avait accompagné le roi dans son exil jusqu'à Gand.
Ce sont des figures christiques, là, qui sont au premier plan. On dirait des Christes suppliciés, descendus de la croix, verdâtres, bleuâtres. Mais il n'y a pas de résurrection.
Il y a l'espoir. Ce que montre Géricault, le moment qu'il a choisi, c'est le moment où le radeau aperçoit une voile au loin, l'Argus, qui vient porter secours aux naufragés. Alors sur le radeau, toute l'histoire du naufrage est racontée, c'est-à-dire on a l'évocation des scènes de violence avec ces corps morts qui tombent à la mer, et puis on a les agonisants, et puis on a ceux qui sont debout, ceux qui voient arriver ce navire, et c'est là qu'est l'espoir, avec en particulier ce métis de dos qui tend un fanion rouge. C'est presque un message à caractère social que délivre Géricault, et c'est là peut-être que se trouve l'hypothétique résurrection.
Riches et pauvres, peuples, grands, rois, même tous, comme s'ils se sentaient poursuivis par les siècles qu'ils ont rognés, se hâtent, se précipitent vers un avenir inconnu. C'est le commentaire du grand penseur Lamennais devant le radeau de la Méduse de Géricault, que vous évoquez bien sûr longuement, Jacques-Olivier Boudon, dans votre livre « Les naufragés de la Méduse » qui vient de paraître aux éditions Belin. L'émission a été préparée par Frédéric Martin avec à la technique Ronan Mahé, à la réalisation Jacques Sigal.